Chapitre 5. Ces événements se déroulèrent bien avant que la sorcière nucléaire et ses fils, les atomes de fission, ne s'en retournent dans le sein d'Arès, bien avant que le désert nucléaire de notre mère Eugène ne redevienne une vallée riante. Je ne sais pas combien de bouches ont raconté cette histoire avant moi. En ce temps-là, il advint qu'un petit surfaceur partagea le sort des Carentins rescapés du Terrare. Pourquoi se trouvait-il là? Nul ne le sait, sauf peut-être le Mahdi Shari des Iblias, lui qui voit dans les cœurs. Il s'enfuit par la galerie d'évacuation, mais, de l'autre côté de la grande barrière isolante, des milliers de corbeaux nucles au bec lumineux l'assaillirent. Il fut sauvé et recueilli par les rats du désert, commandé par le terrible Trar Godovan. Ainsi furent nos ancêtres de la zone contaminée. Ils n'hésitèrent pas à secourir un surfaceur, l'un de ceux qui avait ordonné le gazage et le comblement des puits du Terrare. En vérité, je vous le dis, un bienfait n'est jamais perdu. Au cours de la nuit, les terribles hyènes tachetées du cœur de la zone irradiée attaquèrent la flotte atomique des rats du désert. 3 jours et 3 nuits dura la bataille, mais tant les hyènes étaient nombreuses qu'elles finirent par vaincre la résistance héroïque des hommes du Trar Godovan. Au moment où elles se jetaient sur eux pour les dévorer, le petit surfaceur se présenta devant elles et entonna un chant du silence. Et les hyènes, ensorcelés, se couchèrent à ses pieds. Le petit surfaceur leur donna le baiser du pardon, puis elles s'éloignèrent en pleurant. Et leurs larmes s'enfoncèrent dans le sol et donnèrent naissance au grand fleuve Miséricorde, ce même fleuve qui s'écoule paisible derrière moi. Depuis ce jour, les hyènes tachetées ont disparu et nul ne les a jamais revues. On prétend qu'elles se sont métamorphosées en anges de lumière, et pour ma part, je crois que c'est vrai. Quant au petit surfaceur, la question s'est posée de savoir s'il s'agissait d'un guerrier du silence. Moi, je poserai la question suivante. N'était-il pas tout simplement le Mahdi Shari des Imlias? Légende orale rapportée par l'Onèse, Trar sorcier de l'ancien désert nucléaire du Djen. Les corbeaux nucles se montraient de plus en plus entreprenants, de plus en plus agressifs. La nuée criarde de plumes noires, de becs luminescents et de serres acérées harcelait le petit dôme abandonné par les siens. D'habitude, les charognards ailés suivaient la route des aérotomiques et disputaient les quelques sacs de déchets jetés par-dessus bord aux grandes hyènes tachetées du cœur du désert. Mais aujourd'hui s'offrait à leur convoitise une proie vivante, un enfant humain dont la seule défense consistait à agiter les mains et à pousser des gémissements de détresse. Il n'avait pas à redouter les rayons mortels qui jaillissaient parfois des grands glisseurs et qui semaient la mort dans leurs rangs. Les jambes de Jack pesaient des tonnes. Ses épaules endolories, engourdies, refusaient de lui obéir. Les ailes et les becs et les serres se rapprochaient dangereusement de sa tête, l'effleuraient parfois. Jusqu'alors, il était parvenu à maintenir les corbeaux nucles à distance, en effectuant de larges moulinets avec ses bras. Mais la fatigue et le découragement se conjuguaient maintenant pour le vider de ses dernières forces, pour l'amener au point de rupture. Il ne savait pas combien de kilomètres il avait parcouru depuis que les points blancs des aérotomiques avaient disparu à l'horizon. Il avait perdu toute notion de distance et de temps. Les touffes de brume qui avaient absorbé le disque rougeoyant d'Arès noyaient les environs dans une uniformité grisâtre. Le petit Anjorien s'était lancé sur les traces des glisseurs en espérant trouver plus loin des reliefs, des grottes, d'éventuels abris. Mais le plateau ne proposait aucune autre perspective que sa platitude infinie et figée. De temps à autre, Jack se retournait et tentait d'évaluer sa position par rapport à la barrière magnétique isolante. Mais plus il s'en éloignait, et plus il avait l'impression de s'en rapprocher. Une simple illusion d'optique, aurait dit pas Atkin, en se drapant dans l'importance que confère le savoir. L'image que Jack gardait de ses parents était-elle également une illusion d'optique? Comme la barrière magnétique, elle grandissait au fur et à mesure que ça menuisait l'espoir de les revoir. Une douleur fulgurante lui irradia soudain le dos. Il avait suffi qu'il s'abîme dans ses pensées pendant une poignée de secondes pour qu'un corbeau-nucle se pose sur son épaule et lui arrache un morceau de chair d'un coup de bec puissant et précis. Un flot tiède et poisseux se répandit sous sa chemise et sa veste. Une épée chauffée à blanc le traversa de part en part. Il se mit à claquer des dents, à trembler de tous ses membres. Il sembla tout à coup se mouvoir à l'intérieur d'une masse liquide, visqueuse et froide. Des silhouettes, des paysages défilèrent en accéléré sur l'écran de sa mémoire. Ses amis du quartier d'Otanjor, les rues et les places de la capitale udjénienne, les puits de descente et les galeries du Terrarium Nord, la face grotesque du vieil Arthrarak, les fauves prostrés du parc cinégétique, Ton Orlil et son grand fusil à gaz, les miradors à penser, le visage cireux et anonyme d'un missionnaire creusien, un petit quarantin englué dans le béton liquide, la chambre-salon de la maison familiale, pas, ment, très grand, aussi grand et lumineux que la barrière magnétique. Curieusement, ils ont retiré leur col encore et ils apparaissent dans toute leur beauté. Le crâne dégarni et mouvant de pas, la longue chevelure ondulée de ment. Un torrent de tendresse coule de leurs yeux. Ils écartent les bras, ils sourient. Ils murmurent des phrases incompréhensibles. Les charognards, surexcités par la vue et l'odeur du sang, se ruent sur leur proie pour la curer. Ils s'agglutinent comme des mouches, se battent avec une férocité inouïe pour occuper les meilleures places. Des cerfs crissent sur les os crâniens de Jack, des becs de lumière picorent ses bras, ses jambes, ses fesses, son tronc. Le sol se dérobe sous le petit Anjorien, déséquilibré par le poids de ses prédateurs. Il s'affale de tout son long sur l'herbe rase du plateau. Il n'a ni le réflexe ni le courage de se protéger la nuque de ses mains. Une pluie de piqûres, de brûlures lui grêle le corps. Il perçoit les chocs sourds des becs qui s'abattent sur lui, qui perforent sa chair, qui le décortiquent. Il oscille entre souffrance et inconscience, entre horreur et soulagement. Les douleurs qui le transpercent alors le rejettent sur le rivage de la folie. Il croit entrevoir une bouche de lumière bleue qui le hèle. Les sirènes de l'eau de l'affre donnent un chant envoûtant, une supplique doucereuse. Un reste d'instinct de survie le pousse à se rebeller, à refuser l'inéluctable. 8 ans, c'est bien trop jeune pour mourir. Le destin, ce fameux destin qui adore jouer des farces aux humains, s'est montré particulièrement pervers, cruel. Il ne lui a pas laissé le temps de croquer la vie à pleines dents. Il ne verra jamais Terra Mater, le berceau des humanités. Il ne sera jamais un guerrier du silence. Il a failli. Il a trahi la mémoire d'Arthrarak, le vieux quarantin du Terrarium Nord. Les coups des corbeaux-nucles se faufilent entre ses jambes recroquevillées, sous ses aisselles. Il lacère méthodiquement le fouillis de ses vêtements. Il vise maintenant le foie, le cœur, les morceaux de prédilection. Un bourdon grave monocorde sous-tend le murmure ensorcelant qui s'échappe de la bouche de lumière bleue. Subitement inquiets, comme avertis d'un invisible danger, les corbeaux-nucles suspendent leur dépeçage et relèvent la tête. Les uns restent perchés sur leur proie, le bec dégoulinant de sang. Les autres prennent leur envol, poussent des croassements apeurés et se posent quelques mètres plus loin. Le grondement que colportent les rafales de vent retentit comme un signal d'alarme. Et le courage n'est pas le point fort des charognards ailés. En général, il suffit à une seule hyène tachetée de glapir et de montrer les crocs pour disperser une bande de plus de 1000 corbeaux-nucles. Immobile, aux aguets, il scrute attentivement les énigmatiques bancs de brume d'où peut à tout instant surgir le danger. La peur s'avère plus forte que la rapacité. Le grondement s'amplifie, déchire le lourd silence tombé sur le désert. Une tache blanche se découpe sur le fond de grisaille. Les corbeaux-nucles sont désormais prévenus que des ondes incendiaires peuvent jaillir à tout moment et les frapper de leur haleine brûlante, synonyme de mort instantanée. Les plus prudents préfèrent renoncer et s'envolent à tire-d'aile en direction de la barrière magnétique. Les autres hésitent, enveloppent leur proie inanimée d'un regard lourd de regret, donnent des coups de bec nerveux, maladroits, tentent machinalement de prélever un dernier morceau de chair. La forme étincelante grossit démesurément dans leur champ de vision. Une première salve d'ondes sifflantes déclenche un début de panique dans les rangs des retardataires qui s'ébrouent et s'égaillent dans un bruissement d'ailes. Une dizaine d'entre eux, fauchés en vol, tombent comme des pierres et se fracassent durement sur le sol, tout près du petit dôme qui agonise sur l'herbe du désert. Jack ouvrit doucement les yeux. Il était allongé sur une planche recouverte d'un tissu. Il voulut se redresser, mais les bandelettes qui lui comprimaient le cou, le torse, les hanches et les jambes lui interdirent tout mouvement. Il sentit de subtils courants d'air sur les rares parties dénudées de son corps. Des pointes de vives douleurs lui picoraient la peau, comme si les corbeaux-nucles continuaient de le déchirer sous les pansements. Était-il mort? Il ne se souvenait pas avoir perdu connaissance. Les croassements, les froissements des plumes noires et les claquements des becs luminescents avaient peu à peu décru. La douleur s'était volatilisée comme par enchantement, et Jack, aérien, serein, s'était dirigé vers la bouche de lumière bleue. En avait-il franchi le seuil? Probablement. Tout paraissait si étrange en cet endroit. Il se retrouvait à l'intérieur d'un immense cône de verre. De l'autre côté des parois inclinées et transparentes brillaient d'immenses étoiles de toutes les couleurs. Plus loin encore, sur un fond de ciel noir, se découpaient des halos de clarté diffuse. Du coin de l'œil, Jack décela des mouvements confus derrière les cloisons de verre. Il s'attendit à voir surgir des anges, des démons, des elfides ou encore d'autres entités célestes dont pas Atskin aurait oublié de lui parler. Mais les faces caricaturales que sculptèrent les lumières colorées n'avaient qu'un lointain rapport avec l'idée qu'il se faisait des habitants des mondes de l'au-delà. Il eut la brusque impression d'être cerné par une meute de rats géants. Il perçut un ronronnement sourd dont les vibrations faisaient trembler la planche de sa couchette. Il s'efforça de maintenir ouvertes ses paupières, de plus en plus lourdes, mais il sombra rapidement dans un sommeil peuplé de cauchemars. Les rats du désert descendaient à tour de rôle dans la salle d'isolation pour contempler le petit surfaceur endormi. Pour la plupart, c'était la première fois qu'ils avaient le loisir d'observer un humain sain pendant plus de 5 secondes. Il l'avait récupéré dans un sale état quelques heures plus tôt. Ses saletés de corbeau-nucle avaient bien failli le transformer en charpie. Le sorcier de bord avait même d'abord cru qu'il ne réussirait pas à le sauver. Il ne s'était pas contenté d'appliquer ses plantes, ses minéraux et ses onguents sur les plaies, aussi profondes que des cratères. Il avait également improvisé un rituel atomique, une cérémonie au cours de laquelle il s'enfermait dans la nef radioactive de bord, dansait avec les atomes et invoquait la puissance de la grande sorcière nucléaire, la messagère d'Arès. L'astre pourpre s'était montré clément. Le petit surfaceur, définitivement tiré d'affaire, dormait paisiblement. Les rats du désert, le nez collé sur la paroi du cône isolant, ne se lassaient pas d'admirer le visage délicat et les cheveux soyeux de leurs passagers. Il arrivait que des humains sains transitent par l'aéroport de Glatinbat, mais ils restaient confinés dans les salles d'embarquement et les populations bêta-zoomorphes n'avaient guère le loisir de s'extasier devant la régularité et la finesse de leurs traits. Les cellules nucléosensibles avaient capté les ultimes vents du crépuscule, et l'aérotomique fonçait de toute la puissance de ses moteurs au-dessus du désert profond. Dawn, le fil, le quartier-maître du glisseur, voulait impérativement quitter le territoire des hyènes tachetées avant la tombée de la nuit. Il leur faudrait bientôt s'arrêter afin de permettre aux cellules nucléosensibles de se refroidir, et il jugeait très insuffisant le nombre de ces hommes pour contenir les attaques des féroces prédateurs géants. Les hyènes tachetées n'insistaient pas lorsque la flotte restait groupée, mais elles n'hésitaient pas à assiéger les appareils isolés, immobilisé par une panne ou placé devant l'impérieuse nécessité d'établir un campement de nuit. Solidement accroché au bastingage de la proue, Dohon le fil et le sorcier de bord voyaient avec inquiétude l'encre nocturne se déverser sur le désert. Les pans dénoués de leurs turbans claquaient comme des oriflammes. De brefs éclats de lumière scintillaient de temps à autre dans le lointain.
« C'est saloperie d'hyène !»
gronda le quartier-maître.
« Elles nous suivent, pire, elles nous précèdent !»
Il était obligé de hurler pour couvrir le rugissement des moteurs, le grésillement des cellules et le ululement de l'air déplacé par les hélices latérales.
« Inutile d'espérer les sommets !»
cria le sorcier.
« Si nous ne jetons pas l'ancre dans moins d'une heure, les cellules risquent de nous claquer entre les doigts !»
Des étincelles de colère dansèrent dans les petits yeux renfoncés du quartier-maître.
« Godovan est devenu dingue. D'abord, il refuse d'embarquer ce petit surfaceur, et ensuite il nous ordonne de nous dérouter pour revenir le repêcher.
« On ne traite pas de dingue le trard de son clan !»
coupa sèchement le sorcier.
« Le petit surfaceur s'est mis à courir derrière l'aérotomique de queue. Les hommes l'ont entendu crier le nom du viduc Papyranda et ont aussitôt prévenu Godovan.
« En ce cas, pourquoi a-t-il attendu plus de 2 heures avant de prendre sa décision ?»«
Des problèmes de liaison, peut-être. »«
Le résultat, c'est que nous sommes dans la merde jusqu'au cou. Viduc Papyranda ou pas, la vie d'un seul surfaceur vaut-elle le sacrifice d'un équipage complet ?»«
Godovan a ses raisons, et ton équipage n'est pas encore sacrifié. Dans le fil !»
La voix du sorcier était devenue dure, coupante. Les poils gris qui lui couvraient le nez, les joues et le menton étaient tellement drus et raides que les déplacements d'air ne les faisaient pas bouger d'un millimètre. Cet inextricable buisson d'épines résultait de ses nombreux séjours dans les nefs radioactives et lui valait le surnom affectueux de « baise-mort », un sobriquet qui s'appliquait autant à la nature piquante de ses baisers qu'à sa fonction de guérisseur. D'une main, il lâcha le bastingage et tapota la crosse de longue mort passée dans sa ceinture.
« Les hyènes ne nous ont pas encore mangés. Nous avons de quoi les tenir en respect. »
« 1 heure, 2 heures, 4 heures peut-être. Mais les hommes sont crevés, baise-mort. Tôt ou tard, leur vigilance risque de se relâcher. On aurait dû garder quelques quarantains à bord. Il n'aurait pas été trop pour eux. »
Un crissement aigu l'interrompit. Ils relevèrent la tête dans un même mouvement et jetèrent un coup d'œil inquiet sur la grande voile cellulaire. Certains capteurs nucléosensibles, ouverts comme des pétales de fleurs, commençaient à se revêtir d'une teinte rouge-orangée qui ne présageait rien de bon. Les vents étaient tombés avec l'avènement de la nuit et les cellules, privées d'énergie, surchauffées, risquaient à tout moment d'exploser en une pluie de particules enflammées.
« Nous n'avons plus le choix, » dit baise-mort.
Dohon le fil haussa les épaules. À cet instant, s'il l'avait eu en face de lui, le quartier-maître aurait volontiers planté son poignard à courte lame dans le cœur de Godovan, le trard des rats du désert. Il refoula la colère qui lui embrasait les entrailles et, sans relâcher le bastingage, se dirigea vers la cabine de pilotage, une sphère transparente dressée au-dessus de la proue. 2 minutes plus tard, les ancres stabilisatrices s'extirpèrent de leurs gaines et se déployèrent sous la carène. Une longue vibration secoua l'aérotomique qui finit par s'immobiliser dans un vacarme assourdissant. Les pales des hélices continuèrent de brasser l'air durant quelques minutes, puis un silence épais, hostile, retomba lentement sur le désert. Les hyènes attaquèrent après que la nuit eut emprisonné le désert dans les replis de son noir linceul. Aucun des hommes d'équipage, pourtant disposés à intervalles réguliers tout autour du pont, ne les vit approcher. Rusées et patientes, elles accompagnaient les mouvements tournants des projecteurs qui balayaient les environs sans répit. Elles progressaient dans les recoins de ténèbres, la tête baissée, les paupières mi-closes, pour éviter que leurs yeux jaunes ne captent un éclat de lumière et ne trahissent leur présence. Tendus comme des arcs, les hommes n'avaient pratiquement pas touché au repas froid que baise-mort, dispensé de garde, s'était chargé de distribuer. La peur leur nouait les tripes. Même lorsque la flotte était au complet, la perspective de passer une nuit entière sur le territoire des hyènes tachetées leur flanquait une frousse carabinée. Des légendes toutes plus effrayantes les unes que les autres couraient sur le compte des grandes prédatrices du désert nucléaire. Les populations de la zone contaminée les assimilaient à des démons à forme animale, à des esprits du mal engendrés par les 30 furies célestes. Certains juraient les avoir vus cracher les flammes de l'enfer. D'autres affirmaient que leurs excréments luisaient comme des braises incandescentes. D'autres enfin, que leur urine avait la consistance de la lave en fusion. Les index des hommes jouaient nerveusement sur les détentes des ondes mortes. Le moindre frôlement, le moindre soupir, le moindre souffle prenaient une résonance effrayante dans l'oppressant silence nocturne. Une forme sombre surgit soudain dans le faisceau d'un projecteur à quelques mètres à peine de la poupe du glisseur.
« Bordel, elles sont là !»
hurla un homme. Les ondes mortes vomirent des lignes étincelantes qui manquèrent leur cible et enflammèrent des touffes d'herbe sèche. La hyène s'arracha du sol dans un bond fantastique et s'engouffra sous la carène. Ses griffes et ses crocs crissèrent sur une encre métallique.
« Au lieu de chier dans vos frocs, appliquez-vous à viser !»
Glapidon le fil debout sur le pont en compagnie de Besmore. L'air furibond, le quartier-maître se tourna vers le sorcier.
« Qu'est-ce que tu fous là? Tu serais plus utile dans la nef radioactive. C'est le moment ou jamais d'inviter les atomes à danser et d'invoquer l'aide de la sorcière nucléaire !»
Besmore écarta les bras en signe d'impuissance. Un sourire navré s'esquissa sous la broussaille de ses poils.
« Un seul rituel par jour, c'est la règle des sorciers !» « Ce maudit surfaceur nous aura donc tout pris !» gronda Don le fil. « Il nous a même volé l'affection de notre mère céleste !»« Une mère céleste ne fait pas de distinction entre ses enfants !»
La hyène qui avait forcé le passage n'était qu'un éclaireur, un individu chargé de jauger la puissance de feu de l'aérotomique. Le reste de la meute savait désormais à quoi s'en tenir. Les humains ne disposaient apparemment pas de ces petites billes de métal qui projetaient de sournois éclats meurtriers en touchant le sol. Les lignes brillantes et droites assez faciles à esquiver étaient les seules ripostes à la provocation de l'éclaireur. Les hyènes changèrent alors de tactique. Retardant le plus possible le moment où les projecteurs les capturaient dans leur faisceau, elles jaillirent de l'obscurité et se lancèrent à l'assaut du glisseur par vagues successives de 4 ou 5. Bien que mesurant plus d'1,50 m au garrot et pesant plus de 400 kilos, elle faisait preuve d'une vivacité et d'une agilité remarquables. Elle sautait, louvoyait, effectuait de brusques volte-face, se faufilait entre les rayons scintillants des ondes mortes, puis, comme prévenue par un mystérieux signal, les unes s'en retournaient s'abriter dans le sein des ténèbres, pendant que les autres tentaient de rejoindre l'éclaireur isolé sous le fuselage du glisseur. Les rats du désert appuyaient sans discontinuer sur la détente de leurs armes. Une âcre odeur de viande brûlée et de sang se répandit dans la nuit. Mais les cadavres éventrés ou décapités qui jonchèrent bientôt l'herbe rase du plateau désertique ne dissuadèrent pas les prédatrices de revenir à la charge, toujours par groupe de 4 ou 5. Elles savaient que les résistances des défenseurs finiraient par s'émousser, que tôt ou tard se présenterait l'opportunité de prendre appui sur le rebord supérieur de la coque et de franchir, dans un ultime effort, l'obstacle représenté par les 3 barres horizontales du bastingage. Une dizaine d'entre elles étaient parvenues à traverser sans dommage le barrage de feu et à s'abriter sous la carène. Immobiles, dressées sur leurs pattes, les babines retroussées, elles attendaient patiemment que les humains, accaparés par les incessantes manœuvres de diversion de leurs congénères, aient oublié leur présence. Une mâchoire puissante émergea tout à coup au-dessus de l'arête de la coque, se glissa sous la barre inférieure du bastingage et happa le bras d'un homme qui lâcha son nom de mort en poussant un hurlement de douleur et d'effroi. L'aérotomique ne dut qu'au réflexe conjugué de Don le fil et de Besmore de rester inviolé. Le quartier-maître lâcha une rafale d'ondes en direction de la hyène tandis que le sorcier se précipitait vers l'homme d'équipage pour lui porter secours. La hyène, touchée au défaut de l'épaule, desserra les mâchoires et laissa échapper le poignet de sa proie, déchiqueté jusqu'à l'os. Besmore tira le blessé vers le milieu du pont, se pencha sur lui, l'ausculta brièvement et, sans perdre une seconde, sortit un tube de la poche intérieure de son uniforme.
« Prends sa place » hurla-t-il à Don le fil. « Si je n'enraye pas rapidement l'hémorragie, il n'a aucune chance de s'en tirer !»
Le quartier-maître n'avait pas attendu le conseil de Besmore pour colmater la brèche. Tapis près du bastingage, il scruta la nuit et repéra plusieurs silhouettes tachetées tellement proches de l'aérotomique que la lumière des projecteurs ne faisait qu'effleurer la crête hérissée de leur échine. Elles avaient instantanément mis à profit les quelques secondes de flottement qui avaient suivi l'attaque audacieuse de leur congénère pour passer à l'offensive. Don le fil saisit l'onde-mort de son équipier mutilé, en posa le canon à côté de sa propre arme sur la barre inférieure du bastingage et pressa simultanément les deux détentes. Une pluie de rayons étincelants s'abattit sur les hyènes qui se dispersèrent en poussant des ricanements sinistres. D'un revers de manche, le quartier-maître écrasa les épaisses gouttes de sueur qui lui perlaient sur le front. Il leur faudrait tenir jusqu'à l'aube, jusqu'au moment où les vents radioactifs, ranimés par l'apparition d'Arès, rechargeraient en énergie les cellules nucléosensibles. Une vingtaine d'hommes contre une meute enragée de plusieurs centaines de hyènes. Un combat inégal, perdu d'avance. Dont le fil secoua la nuque, autant pour chasser le découragement qui le gagnait, que pour se débarrasser des lambeaux de fatigue qui s'accrochaient à lui. Il embrassa du regard le large pont de l'aérotomique, enveloppé d'une épaisse fumée blanche. Les canons des armes crachaient inlassablement leurs ondes à haute densité. Le quartier-maître remarqua que ces hommes allongés ou accroupis reculaient, cédaient inexorablement du terrain. La tactique de harcèlement des hyènes commençait à porter ses fruits. Une nouvelle pensée de haine à l'encontre de Godovan traversa Don le fil. Puis il se campa sur ses jambes, cala résolument les crosses des deux ondes mortes contre son ventre et s'apprêta à vendre chèrement sa peau. Les coups sourds et répétés qui ébranlaient la coque réveillèrent Jek. Une quinzaine de secondes lui furent nécessaires pour se souvenir que les corbonucles l'avaient expédié dans les mondes de l'au-delà, des mondes peuplés d'entités célestes qui ressemblaient étrangement à des rats. Puis il se rendit compte que le cône de verre à l'intérieur duquel il était allongé était plongé dans une obscurité insondable, et il craignit que les cinq Rhodiens du jugement dernier, ce jugement dernier qui terrorisait tant Pas et Man, ne l'aient condamné à errer dans le vide infernal pour l'éternité. Des rires démoniaques transpercèrent les parois de verre pour confirmer cette abominable sentence. Jake en déduisit que les rats étaient des créatures monstrueuses chargées de le harceler jusqu'à la fin des temps. Glacé jusqu'aux os, il regretta amèrement de ne pas avoir accompagné ses parents aux offices du temple grodien. Paatskin avait eu raison comme toujours. Il entendit soudain des crépitements, des grattements, des crissements, des hurlements. Il eut l'impression que des cohortes de démons se livraient à une bataille acharnée tout autour de lui. Un réflexe instinctif l'entraîna d'abord à refermer les yeux, puis, sa curiosité reprenant le dessus, il entr'ouvrit timidement les paupières et explora du regard les ténèbres environnantes. Il s'accoutuma progressivement à l'obscurité, discerna, au-delà du cône, les formes figées de banquettes, d'escaliers, de cloisons, de caissons et de cordes enroulées. Il s'aperçut que ce qu'il avait pris pour des astres lors de son premier réveil n'était rien d'autre que des projecteurs désormais éteints et des hublots occultés par des volets métalliques. Le vide infernal des Creudiens présentait de curieuses similitudes avec l'intérieur de l'antique bateau à voile que Pâl avait emmené visiter au musée de la mer de Zougas. Les ricanements effrayants s'achevaient parfois en râles prolongés ou en cris de fureur. Le petit Anjorien eut l'impression qu'on courait dans tous les sens au-dessus de sa tête. Au bruit de pas précipités qui faisaient vibrer les parois de verre du cône, succédaient des craquements, des frottements, des grincements, un peu comme ceux que produisaient les châtras dans les greniers des vieilles maisons. Tout à coup, le voile de brume qui ensevelissait l'esprit de Jack se déchira, et tous les éléments de l'improbable puzzle se remirent en place. Il n'avait pas franchi le seuil de la porte de lumière bleue. Il n'errait pas dans le vide infernal promis aux incroyants. Il n'avait pas quitté les mondes de l'en bas, et les rats n'étaient pas des diables tourmenteurs, mais des hommes du clan des rats du désert qui avaient fait demi-tour pour venir le rechercher. Il se trouvait tout simplement à l'intérieur d'un aérotomique. Outre son aspect rassurant, cette nouvelle perspective avait l'avantage de fournir une explication plausible aux bandelettes qui lui en serraient le corps. On ne soigne pas un être qu'on est chargé de persécuter jusqu'à la fin des temps. Jake estima que le fait d'avoir prononcé le nom du viduc Papyronda avait un lien avec le revirement d'attitude des rats du désert. Arthrarak, envieux sage, ne lui avait pas soufflé ce nom par hasard. Il résonnait comme une clé qui ouvrait toutes les portes. Restait maintenant à savoir contre qui se battaient ces sauveteurs. À en juger par les vociférations, les grognements, les chocs et l'incessant crépitement des armes, le combat faisait rage là-haut. Jack demeura un moment écartelé entre sa curiosité et sa peur. Il n'avait connu aucun répit depuis qu'il s'était enfui de la maison familiale d'Anjor. Mais ni le gazage et le comblement des puits du Terrarium Nord, ni la longue marche dans la galerie d'évacuation, ni l'agressivité des quarantains rescapés, ni la rapacité des corbeaux nucles n'étaient venus à bout de lui. Quelqu'un peut-être, le fantôme du vieil Arthrarak, peut-être même Naya Fikit ou encore Srilumpa, semblait veiller sur lui et écarter l'un après l'autre les obstacles qui se dressaient sur sa route. Cette constatation souffla sa frayeur comme les vents des hauteurs balayaient les miasmes de la cité d'Anjor. Convaincu d'être protégé par une armure d'invincibilité, par un enchantement qui maintenait la mort à distance, il dénoua fébrilement les bandelettes qui l'entravaient. Il dut en arracher certaines collées au sang coagulé et à une substance visqueuse étalée sur les plaies. Il serra les dents pour lutter contre la sensation de vertige. Ses blessures, harpies brutalement réveillées, les lancèrent et déclenchèrent en lui un début de nausée. La coque de l'aérotomique roulait maintenant d'un côté sur l'autre, comme prise dans une violente tempête. De longs gémissements ajoutaient leurs notes lugubres au vacarme extérieur qui s'amplifiait de seconde en seconde. La fraîcheur de la nuit saisit Jack, entièrement nu. Certaines de ses blessures se remirent à saigner. Il se leva et se dirigea à tâtons vers l'une des parois de verre. À chacun de ses mouvements, il avait l'impression que des lames aiguisées s'enfonçaient dans ses lésions, incisaient profondément ses chairs. Plusieurs minutes lui furent nécessaires pour découvrir le sas du cône, une trappe verticale montée sur deux gonds, dépourvue de poignées et entourée d'un joint étanche souple. La franchir s'avéra une entreprise malaisée, car il lui fallait en même temps relever le lourd battant de verre et se faufiler pratiquement accroupi dans l'étroite ouverture. Il y parvint après trois tentatives infructueuses, lorsqu'il eut l'idée d'engager l'épaule pour entrebâiller la trappe, d'avancer en s'arc-boutant sur ses jambes fléchies, puis de plonger droit devant lui avant que le ventail ne retombe et ne le happe comme une bouche vorace. Sa roulade sur le plancher lui soutira des grimaces et des larmes. Il crut d'abord qu'il s'était brisé les vertèbres. La douleur omniprésente, virulente, le paralysait, le clouait sur le métal lisse et froid. Un escalier donnait sur un large carré de ciel étoilé, traversé de temps à autre par des ombres fugitives, des éclats phosphorescents et des lignes étincelantes. D'amples secousses agitaient l'aérotomique. Perçu de l'extérieur du cône, le tumulte prenait une résonance nettement plus inquiétante. Aux éclats de voix et aux râles des rats du désert se mêlaient des rugissements féroces, inhumains. L'odeur suffocante qui envahissait la cale lui rappela la puanteur qui rôdait dans les allées du parc cynégétique d'Anjor. Jack devina que la bataille opposait les rats du désert à une horde de bêtes sauvages et, comme ces fauves-là n'étaient ni réservés ni anesthésiés, contrairement à ceux qui se prélassaient devant les lance-cartouches des riches Anjoriens, il fut traversé par une envie pressante de retourner se réfugier à l'intérieur du cône de verre. Mais il combattit aussitôt sa veulerie, qu'il jugea incompatible avec son tout nouveau statut de créature invincible. Frissonnant, il se releva et, bien que la fraîcheur nocturne ne fût pas la seule responsable du tremblement de ses membres, il croisa les bras sur sa poitrine pour récupérer un peu de sa chaleur corporelle. Puis il gravit avec circonspection les premières marches de l'escalier métallique. Six rats du désert, la gorge broyée, jonchaient le plancher du pont supérieur. Contrairement à d'autres prédateurs, les hyènes, disciplinés, ne se disputaient pas les cadavres mais se répartissaient les tâches. L'une se chargeait d'égorger les proies blessées, tandis que les autres venaient prêter main forte aux assaillantes qui continuaient de harceler les défenseurs rassemblés au centre du pont. Ce n'est qu'à l'issue du combat que la femelle dominante, la matriarche de la horde, procéderait à un partage équitable. Une trentaine d'entre elles avaient sauté par-dessus le bastingage et avaient investi le pont supérieur. À coups de dents et de griffes, elles avaient d'abord déchiqueté les câbles d'énergie magnétique des projecteurs. Elles n'ignoraient pas que les hommes, contrairement à elles, avaient besoin de la lumière artificielle pour voir dans l'obscurité. De somptueux gerbes d'étincelles avaient embrasé la nuit, puis l'aérotomique avait été plongée dans des ténèbres opaques, fuligineuses. Les membres de l'équipage, regroupés autour de Don, le fil et de Besmore, tentaient de regagner la percée carrée qui s'ouvrait sur la cale. Les ondes maintenaient encore les hyènes à distance, mais les armes chauffaient tellement qu'elles leur brûlaient les mains. De plus, les réserves d'énergie diminuaient rapidement. Le quartier-maître avait aboyé l'ordre de repli général vers le cône isolant. Il ne savait pas si les parois de verre plombées seraient en mesure de résister à la poussée des hyènes, ni même si les prédatrices leur laisseraient le temps de se glisser par l'étroit sas d'ouverture. Mais il n'entrevoyait aucune autre solution.
« Saloperie de bestiole !»
siffla Don le fil.
« Elles sont en train de nous couper le chemin de la cale !»
Elles avaient en effet compris que les hommes tentaient de se réfugier dans le ventre de l'aérotomique, et elles effectuaient d'amples mouvements tournants pour venir se masser devant la percée carrée. Là, elles sautaient sur place ou se jetaient sur le côté pour esquiver les rayons brillants des ondes morts et se lançaient à l'attaque dès que se présentait un court moment de répit. Leurs énormes mâchoires claquaient à quelques centimètres des jambes de leur proie. Elles faisaient preuve d'une telle vélocité, d'une telle promptitude, qu'il était pratiquement impossible de les coucher en joue. Leurs yeux jaunes et luisants, seul point de repère fiable dans la nuit, fusaient comme des étoiles filantes aux trajectoires folles. Le plus souvent, les rayons s'écrasaient sur le plancher métallique ou se perdaient dans les ténèbres.
« Il en vient d'autres !»
gémit une voix. Elles affluaient de toutes parts. Certaines de l'issue de la bataille, elles ne cherchaient plus à se dissimuler. Il y avait de l'allégresse dans leurs bonds et leurs hurlements. Le désert nucléaire n'offrait que peu d'occasions de se réjouir. Le gibier s'y faisait de plus en plus rare, et elles en étaient parfois réduites à manger les individus blessés de la horde ou même, lorsque la faim devenait trop forte, à dévorer leurs petits. Subitement, les hyènes qui bloquaient le chemin de la cale perçurent une présence derrière elles. Elles crurent d'abord que d'autres humains cachés dans le ventre de l'appareil les prenaient à revers, et elles se bousculèrent mutuellement pour s'écarter de la ligne de tir. Passées cette première réaction de panique, elles se retournèrent, libérèrent des grondements assourdis et, fléchies sur leurs pattes arrière, s'apprêtèrent à affronter ces nouveaux adversaires. Lorsqu'il émergea de la percée, Jake aperçut des taches jaunes et menaçantes à moins de 2 mètres de lui. Il se rendit compte que ces éclats flamboyants appartenaient à de gigantesques formes tapies dans les ténèbres. Au second plan, il distingua des ombres agitées, grondantes, des rayons scintillants qui dessinaient de furtifs jeux de lumière sur le pont et qui trouaient les paresseuses volutes de fumée blanche. La brise nocturne colportait des odeurs fortes d'air surchauffé, de viande carbonisée et de sang. À cet instant, la frayeur déserta définitivement le petit Andjorien. C'est sans la moindre appréhension qu'il gravit les marches supérieures de l'escalier, qu'il posa le pied sur le pont et qu'il s'avança vers les hyènes. Il contempla leurs oreilles pointues, leurs museaux allongés, leurs longs crocs acérés, leurs larges poitrailles, leurs pattes puissantes, leurs fourrures brunes parsemées de taches claires. Elles continuèrent de grogner en sourdine, mais elles n'attaquèrent pas. Elles bâillèrent, étirèrent leur grand corps, allongèrent les pattes antérieures et courbèrent la nuque comme pour s'incliner devant le petit homme qui venait de faire son apparition sur le pont.
« Qu'est-ce qu'il mijote encore ?»
murmura Don le fil. L'une après l'autre, les hyènes se détournaient du groupe des rats du désert et convergeaient vers la percée de la cale. Le quartier-maître crut d'abord qu'elles échafaudaient une nouvelle stratégie, qu'elles se regroupaient dans un même endroit pour lancer une contre-attaque massive, définitive. Mais il se rendit rapidement compte que leur comportement avait quelque chose d'anormal. Elles semblaient avoir abandonné toute agressivité. Elles marchaient d'un pas paisible, la tête baissée, signe chez elles de soumission. Elles se rassemblaient devant l'ouverture carrée où elles s'allongeaient flanc contre flanc, patte contre patte, queue contre queue. Leur soudain renoncement déconcerta Don le fil. Les hyènes tachetées, capables de soutenir un siège de plusieurs jours, n'avaient pas pour habitude de tourner le dos à des adversaires armés, encore moins d'abandonner la partie. Les hommes d'équipage, exténués, aussi éberlués que leur chef, oublièrent de presser la détente de leurs armes. Ils se contentèrent d'accompagner du regard les silhouettes furtives et grises, parfois aussi hautes qu'eux, qui passaient à proximité et qui se fondaient dans la nuit comme des ombres. Un silence sépulcral ensevelit l'aérotomique. Le quartier-maître fut le premier à reprendre ses esprits. Quelles que fussent les raisons de leur singulière attitude, les hyènes constituaient dorénavant des cibles fixes faciles à viser, une opportunité qu'il ne fallait surtout pas manquer.
« Qu'est-ce que vous attendez? Qu'elles vous bouffent les couilles ?»
La voix grave du quartier-maître sortit les hommes de leur léthargie. Ils levèrent les canons de leurs ondes morts et les braquèrent en direction des formes pétrifiées.
« Feu !»
cria Don le fil.
« Non !»
hurla Baisemort. Le sorcier saisit le canon de l'arme du quartier-maître et le pointa brutalement vers le bas. L'onde frappa le plancher métallique sur lequel elle abandonna une étroite cavité aux bords crénelés et fumants. Les hommes interloqués suspendirent leurs gestes.
« Qu'est-ce qui se prend ?»
glapit Don le fil foudrage. Le bras tendu et puissant de Baisemort l'empêchait de relever son onde mort.
« Je tue le premier qui remue le petit doigt !»
fit le sorcier d'une voix tranchante. Les yeux exorbités de Baisemort lançaient des éclairs. Les piquants hérissés de sa barbe semblaient eux-mêmes chargés d'énergie électrique maléfique. Lorsqu'un sorcier de bord était dans cet état, un état proche de la transe atomique, les rats du désert ne s'avisaient pas de transgresser ses ordres. Cela valait également pour les quartiers-maîtres et le trar Godovan. Dohon le fil jugea préférable de ne pas insister. Toutefois, si d'aventure Baisemort se trompait, il se promit fermement de lui plonger son poignard dans la gorge. Ce serait son dernier acte d'homme vivant et libre. L'haleine tiède des hyènes effleurait la peau nue de Jek. Couchées devant lui, elles occupaient un bon tiers de la surface du pont. Aucune trace de férocité ne subsistait dans leurs yeux jaunes grands ouverts. Seuls les gémissements plaintifs qui fleurissaient dans le sillage de leur souffle précipité troublaient la paix nocturne. Jek s'avança d'un pas. Elles ne bougèrent pas. Bien que couchées, elles paraissaient encore immenses, beaucoup plus grandes en tout cas que les fauves importées du parc cinégétique d'Anjor. Elles ressemblaient à des chiens lions, la crinière en moins et les taches en sus. Leurs griffes mesuraient plus de 30 centimètres de long, et il leur aurait suffi d'un seul coup de patte pour le décapiter. Il allongea lentement le bras. La hyène la plus proche tendit le cou. Il craignit que la terrible mâchoire ne lui broie la main, mais le museau vint se nicher délicatement sous sa paume. Il s'accroupit pour lui caresser le front, le poitrail, la cuisse, le flanc. Ses doigts perçurent nettement les battements impétueux de son cœur, escaladèrent des boursouflures de chair, stigmates des combats qu'elle avait dû livrer, les côtes saillantes, les cratères creusés par les parasites, les mamelles gonflées de lait, des tétines à la fois souples et dures. La peau de la hyène lui racontait la lutte pour la survie, la faim, la chasse, la reproduction. Un raccourci saisissant de l'existence des prédatrices du désert nucléaire. Elles avaient assiégé l'aérotomique parce que la nécessité les y avait poussées, parce que les petits restés en arrière sous la surveillance des plus âgés criaient famine, parce que le gibier avait été décimé par les vents nucléaires et les humains de la zone contaminée. Des larmes montèrent aux yeux de Jek. Il entoura de ses bras le cou de la hyène et se blottit contre elle. De la pointe de la langue, elle lui lécha délicatement les épaules et le cou. Jamais il n'avait éprouvé un tel sentiment de chaleur, de sécurité, de tendresse. Un cri aigu, prolongé, déchira le silence. La hyène secoua la tête et se détacha des bras de Jek avec une douceur infinie. Puis elle se releva, enjamba ses sœurs de horde et se dirigea en trottinant vers l'un des cadavres des hommes d'équipage. De ses pattes antérieures et du museau, elle le poussa sous la barre inférieure du bastingage et le fit basculer dans le vide. Plusieurs de ses congénères procédèrent de la même façon avec les 5 cadavres restants. Jek n'essaya pas de les en dissuader. Il lui paraissait juste qu'elle recueille les fruits de leur chasse. Une chasse qui aurait été plus productive si elle n'avait pas décidé d'épargner les survivants. L'une après l'autre, elles prirent leur élan, bondirent par-dessus le bastingage. et s'évanouirent dans les ténèbres. Jake se rapprocha du bastingage. Il distingua alors des dizaines de silhouettes sombres qui s'éloignaient à vive allure vers le cœur du désert. Des yeux jaunes perforaient l'obscurité et le fixaient avec insistance. Il comprit qu'ils appartenaient à la femelle dominante, à la matriarche du clan. Elle l'enveloppa d'un long regard, à la fois affectueux et triste. Puis, après avoir poussé un hurlement déchirant, elle s'élança sur les traces de la horde. Malgré leur fatigue, les rats du désert ne dormirent pas. Ils réparèrent les câbles d'énergie magnétique, mais comme si la nuit noire était désormais devenue la plus sûre de leurs alliés, ils ne rallumèrent pas les projecteurs. Ils restèrent sur le pont, accoudés au bastingage, le regard perdu dans les étoiles, mastiquant machinalement leur ration de viande et de céréales séchées. Baise-Mort entraîna le petit surfaceur dans le compartiment des couchettes de la nef, situé dans la cale arrière de l'aérotomique. Le sorcier installa Jake sur une couchette et étala son long gant jaune et odorant sur ses plaies ouvertes. Il jugea inutile de les recouvrir de pansements. Il dénicha dans une caisse métallique un vieil uniforme de cuir noir dont il taillada les bras et les jambes à l'aide d'un couteau. Il fabriqua une ceinture de fortune avec les chutes et s'efforça de confectionner un accoutrement cohérent avec l'ensemble. Lorsqu'il en eut revêtu Jake, il déchira un pan de son propre turban et le noua autour de sa tête. Baise-Mort se recula pour admirer son œuvre.
« Te voilà devenu un vrai rat du désert, petit surfaceur !»
Jake crut deviner qu'il souriait sous sa barbe. Il ne trouvait pas d'autre mot pour décrire le allié qui mangeait la face de son interlocuteur, dont les yeux et le front étaient les seules parties du visage qu'il pouvait regarder sans avoir l'impression de se crever les yeux.
« Est-ce que tu veux dormir un peu ?»
demanda Baise-Mort. Jake acquiesça d'un mouvement de tête. Son corps, fourbu, lourd, implorait le repos. Il ferma les yeux. Le murmure enchanteur du sommeil le happa instantanément. Il se rendit vaguement compte que le sorcier étalait une épaisse couverture de laine sur son dos. En revanche, il ne l'entendit pas sortir et refermer la porte. Il plongea dans le cœur d'une spirale descendante au fond de laquelle brillaient deux immenses yeux jaunes et tristes. Une sensation de brûlure réveilla Jake. La lumière du jour qui entrait à flots par un hublot lui agressait les paupières. Il eut l'impression d'avoir dormi pendant des années. Un ronronnement régulier faisait vibrer les minces cloisons de la cabine. Il étira voluptueusement ses membres encore engourdis. Son estomac se manifesta par des grondements indignés. Il se souvint alors qu'il n'avait rien mangé depuis qu'il avait quitté le terrier du vieillard Trarac. Il se leva, sortit de la cabine, emprunta un large couloir au fond duquel trônait un étrange globe noir, et gravit agilement l'échelle qui donnait sur un orifice de la largeur d'un homme. Les vents du matin avaient rechargé les cellules en énergie, et l'aérotomique volait 2 mètres au-dessus de l'océan grisâtre et figé du désert. Les déplacements d'air étaient si puissants que Jake éprouva de sérieuses difficultés à conserver son équilibre. Il dut d'abord poser la main sur son turban qui menaçait de s'envoler, puis franchir à 4 pattes les quelques mètres qui le séparaient du bastingage. Là, il s'accrocha aux barres, se redressa et observa la demi-sphère transparente sur la paroi de laquelle se découpait la roue directionnelle et la silhouette du pilote. Lorsqu'ils aperçurent le petit surfaceur, les rats du désert, y compris le pilote, y compris le quartier-maître dont le fil, désertèrent leurs postes respectifs, affluèrent de tous les recoins du pont et se pressèrent autour de lui. Ils se tinrent d'abord à distance comme si une invisible barrière leur interdisait de se rapprocher davantage. Leurs faces zoomorphes, effleurées par les pans flottants de leurs turbans bariolés, étaient empreintes de gravité, de respect. En dépit de leur difformité, Jake les trouva bien plus beaux et nobles que les Andjoriens de surface, engoncés dans leur col en corps et bouffis de suffisance. Après un long moment d'hésitation, les rats du désert se décidèrent à le toucher, à lui caresser le visage et le cou. Jake n'éprouva aucun dégoût au contact de leurs paumes et de leurs doigts rugueux. Il prit conscience qu'il ne lui témoignait pas seulement de la reconnaissance, mais qu'il ressentait également le besoin pressant de renouer avec leur lointain passé, avec leurs origines. Bien qu'il n'ait toujours connu que la zone contaminée et la triste condition de créature bêta-zoomorphe, le fait de flatter la peau soyeuse d'un humain sain réveillait des souvenirs enfouis dans les tréfonds de leur âme. Il se laissait bercer par un fleuve de nostalgie qui coulait de l'abîme des âges, gonflé, génération après génération, par la parole des anciens et les berceuses des mères. Jake vit des larmes silencieuses s'écouler de leurs profondes orbites. Il avait faim, il avait soif, mais il n'osa pas bouger de peur de rompre l'enchantement de l'instant. Il l'avait délivré des charognards ailés, et il n'aurait peut-être pas d'autre occasion de leur exprimer sa gratitude.
« Foutez-lui la paix !»
Le coup du gueule de Besmore les dispersa comme une volée de corbeaux-nucles. Le sorcier s'avança vers le petit Andjorien et lui tendit une gamelle en fer ainsi qu'une gourde de peau.
« Faut les excuser. Ils ne voient pas souvent de surfaceurs, encore moins de surfaceurs qui parlent ou viennent t'acheter. Alors comme ça, tu connais le viduc Papyronta. »
Jake arracha le couvercle de la gamelle et enfourna dans sa bouche l'une des galettes séchées et salées qu'elle contenait.
« Tu as raison, » reprit Besmore. « Tu parleras mieux le ventre plein. De toute façon, peu importe que tu le connaisses ou non, la seule chose qui compte, c'est que la messagère d'Arès te conduise au port qui t'est destiné. Seuls les princes du soleil ont le pouvoir de parler aux hyènes. Les princes ou les fous. Et je ne crois pas que tu sois un fou. »